Il est avec nous et il s'appelle Gus. Son nouveau spectacle Givré arrive. Il est déjà en tournée. Il était à Paris pendant quelques semaines. Il passera dans le Nord, un peu partout. Givré, est-il vraiment Givré? Va-t-il nous faire un tour en direct dans un instant en version live vidéo? Salut Gus.
Salut, merci pour l'invitation.
Bah, toujours.
Ouais, je suis content. Ouais.
Alors, la dernière fois que tu es venu, tu m'avais sorti un billet de 200 balles, t'es reparti avec. Là, tu me laisses des cartes.
Ouais,
voilà.
mais
c'est pas des cartes de crédit.
Non,
mais c'est plutôt pas mal.
Mais si tu les récupères, si tu les retrouves toutes, tu pourras faire un jeu complet, c'est cool.
On fera un petit tour tout à l'heure, si ça. Ouais, on essaye.
Tranquille. Bien sûr, avec plaisir.
Allez. Le spectacle Givré vient d'une idée de ta tête qui est. Il paraît-il assez... Voilà,
hein, c'est pour ça que j'ai les cheveux comme ça, c'est que vraiment, c'est tellement en ébullition constante que voilà, je me fais déborder par ma coiffure.
Quoi. Je raconte ma vie, mais j'étais en voiture la fois dernière avec ma mère, au téléphone, et elle me dit, il y a un mec avec des cheveux dans Télématin. Je bloque, parce qu'elle savait pas qu'on allait t'allais venir. Elle me dit, mais j'ai jamais vu des cheveux comme ça. Elle était bloquée, tu as fait bloquer ma mère comme ça. Mais voilà.
Après,
et elle me dit, je lui dis, mais il s'appelle comment? Gus. Et là, j'explose de rire. J'ai bon, bah, je lui dirai, c'est officiel.
On a fait un sondage et tu sais qu'il y a 92% des gens qui viennent plus pour ma coiffure que pour ma magie. Hein.
Ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Jean-Louis David est content. Bon allez, parlons un petit peu de ce spectacle quand même qui passe aussi par Lille le 29 mars, le 13 juin à Dunkerque. Une tournée où on va chanter aussi. J'ai vu qu'il y avait un petit jukebox sympathique. Laurie est au courant qu'on la cite dans le spectacle?
Non, mais elle est invitée, donc j'ai hâte qu'elle voit le spectacle.
C'est vrai?
Oui, parce que quand même, faut expliquer à vos auditeurs, parce que sinon ils vont se dire que vraiment ça n'a ni queue ni tête ce projet. En fait, vu que c'est sur le thème de la montagne, je commence par raconter l'ambiance dans la voiture. Donc moi, j'ai grandi dans les années 90, à l'époque où on faisait des compiles. Mm-hmm. Donc évidemment, tout ce que je raconte est prétexte à faire de la magie avec. Donc là, je fais apparaître une cinquantaine de CD, voilà. Puis je raconte la guerre avec mes sœurs pour savoir, allez, on met ma compile, on met la tienne. Parce que même si j'étais le garçon avec trois petites sœurs, évidemment, c'est moi qui me faisais martyriser. Voilà, et bref, tout ça, ça fait partie du voyage pour la montagne. Et après, on arrive à la montagne, donc il y a un numéro... avec des secouristes sur scène, parce que j'ai pas de régisseur en fait, j'ai des pisteurs secouristes avec moi sur scène.
Oui, tu les as mis en combinaison pendant
Exactement.
Tout le spectacle
des
en fait.
Des vraies combinaisons qui ont servi en fait. À des pisteurs. D'accord. Le brancard a également sauvé des vies, et la télécabine qui apparaît est une vraie télécabine. C'est important que ça soit que toute cette ambiance soit vraie, parce que ça a tellement aucun sens de mettre un décor de montagne dans un théâtre. Soit c'est du décor, un carton-pâte un peu cheap, et du coup, c'est voilà. Soit on fait le truc vraiment, et au plus grand désespoir de mon metteur en scène, et puis ça marche, quoi. Les gens se projettent vraiment dans une ambiance.
Quand on fait un spectacle comme ça, on prend les accessoires et on crée les tours après, ou alors c'est plutôt le contraire, on essaye de réfléchir à faire un tour avec les accessoires autour de la montagne?
Non, on réfléchit d'abord sur le papier à qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait sympa dans l'histoire qu'on raconte, parce que si moi je commence à ramener tout le matériel de la montagne que j'aime, après je peux plus faire de magie parce qu'on peut plus se déplacer dans la pièce, quoi. Vraiment, il y aurait des pylônes de télécabine, de machin, de trucs. Donc, il fallait que chacun des numéros ait vraiment du sens dans l'histoire. Et après, voilà, non, ça s'est fait un petit peu. Moi, j'ai mis presque 2 ans à avoir ce spectacle en tête parce que j'ai mis plein de petits bouts de croquis sur des papiers, des feuilles volantes à droite à gauche. Et puis est arrivée la fin de la tournée du premier spectacle. J'ai tout mis ensemble en me disant, est-ce que ça a du sens ce projet? Hop, mais finalement, il y avait quasiment un déroulé complet du spectacle. Il a fallu quand même un petit peu réfléchir et travailler encore. Mais sur la vision du truc, je l'ai eu assez vite. Ce qui est compliqué, c'est comme tu dis, c'est la fabrication après. Donc, tu vas dire, je veux faire apparaître une télécabine sur scène, c'est chouette. Mais même si je connais bien le solfège de la magie, bah là, ça implique d'autres éléments. Je veux dire, une télécabine, ça a toujours été fait pour être suspendu à la montagne, jamais pour apparaître sur un sol de théâtre. Donc, comment on fait pour que ça fonctionne et que ça soit vraiment magique, qu'on voit pas du tout les artifices, tout ça. Donc, ça a été un gros casse-tête pour mes équipes. Mais j'ai la chance qu'ils aient accepté le projet et qu'ils soient toujours avec moi dans l'aventure.
Et ça, le producteur cool. aussi, la productrice.
Ouais, tout le monde. Franchement, moi, si j'avais été des gens qui travaillent avec moi, j'aurais quitté le projet depuis bien longtemps. Je suis insupportable. Mais en fait, j'ai de la chance, je suis hyper bien entouré.
Tu dis toujours mon équipe parce que c'est important. C'est un magicien, mais c'est une équipe.
Hein. C'est clair que moi, sans mon équipe, je suis rien. Enfin, si je peux faire des blagues, je peux faire disparaître une carte comme ça. Tu vois, je prends la carte, hop, elle disparaît. Mais pour 2000 personnes, quand on est loin, ça joue vraiment pas très grand. Donc, c'est vrai que c'est très important d'avoir une bonne relation avec l'équipe, parce qu'on part aussi, là on part en tournée pendant 6 mois, 1 an, 2 ans ensemble. Donc ils sont pisteurs secouristes et on se vanne sur scène, mais après quand le rideau se ferme, c'est une ambiance de copains et puis on partage plein d'autres trucs. Donc
la magie, ouais. c'est la précision, mais est-ce que les tailles de salles sont différentes en fonction de ton spectacle?
Oui, parce que en fait, dans chacune des salles, il y a 10 000 paramètres différents. Il y a la salle est plus ou moins ouverte, tu vois, le public il peut être parfois quasiment à 180 degrés. Donc parfois quand tu vois depuis dans certaines salles, t'as l'impression que les mecs sont en coulisses, tu vois. Donc tout d'un coup, faut revoir certains numéros, les jouer peut-être un peu plus en arrière-scène. Parfois, il nous manque une perche en haut pour accrocher tel truc qui va permettre un trucage. Mmh. Donc c'est vrai que c'est un truc de précision et on n'est jamais dans des chaussons, en fait. C'est de l'adaptation constante. C'est en ce sens que je trouve mon équipe vraiment formidable. C'est que quand on arrive dans une salle, c'est pas, oh putain, c'est pas comme d'habitude. C'est ok, ouais, donc on va faire ça ici. Et le brancard, quand tu le fais apparaître, bah, moi je serai à l'intérieur, mais j'arriverai de l'autre côté et tout. Donc la tournée fait qu'on peut jamais s'ennuyer du spectacle parce qu'on est constante adaptation du projet, quoi.
Dans le spectacle, dans la bande-annonce, j'ai vu une marionnette. C'est un hommage à Jeff Panaclock ou alors c'est juste, t'avais un truc
C'est pas un hommage. Moi, j'ai toujours aimé la ventriloquie, mais Jeff m'a mis en contact avec Mehdi Gharik, qui est le mec qui a fabriqué cette marionnette que tu connais peut-être.
Oui, parce qu'il est venu ici tout au début de sa carrière.
Ah, génial.
Et il se faisait insulter au téléphone qu'en fait, il était venu, il faisait son spectacle.
Mais personne... il est hyper sympa.
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, personne ne connaissait Jeff quand il est venu ici.
D'accord.
Et en fait, avec la marionnette, on passait Dalida, on passait Régine, on passait. Et à chaque fois, il faisait son petit mot sur Claude François et tout ça. D'accord. Et les gens l'ont mal pris, ils comprenaient pas l'histoire en fait.
Ah, c'était Jeff qui était là, d'accord.
C'est Jeff et la marionnette.
Ah d'accord. Non, parce
et
que...
le public.
Ouais, non. Parce que moi, je parlais de Mehdi, qui est le mec qui a fabriqué
les marionnettes. Oui, qui a fabriqué la marionnette. Ouais, non, Mehdi est pas venu.
Ah, d'accord. Je comprenais pas l'histoire.
Mais pas. Non. Et Jeff, en fait, la première fois qu'il est venu, personne ne le connaissait, faisait ses vannes ici. Et les gens nous appelaient pour dire, mais c'est qui ce mec qui, voilà. Et il est revenu 2 ans plus tard après avoir fait Sébastien. Et là, tout le monde disait, c'était merveilleux. Il avait quasiment. Non, il avait pas les mêmes vannes. Elles étaient meilleures.
Non, mais après, de toute façon, donc c'est pas un hommage. Mais Jeff m'a aidé en me donnant le contact du gars qui fabrique les meilleures marionnettes chez nous en France. Et j'ai aussi été par un mec qui s'appelle Christian Gabriel, qui a un singe qui s'appelle Freddy, qui est hilarant. Et bref, moi j'ai toujours aimé la ventriloquie. J'avais aucune compétence, mais juste je trouvais que avoir un Yeti sur scène, tout d'un coup c'était dans le thème, c'était rigolo. Et j'avais pas mesuré, parce qu'en fait, le Yeti c'est comme. Il est un peu comme une petite voix d'un spectateur qui veut trouver le truc et me mettre dans la sauce, quoi. Et j'avais. Donc au début, évidemment, les premières, c'était pas très bon, pas très calé. Je me suis vite rendu compte qu'en fait, bouger les lèvres, pas bouger les lèvres, évidemment que je fais le mieux possible, mais si le numéro est bon, et là ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. On oublie complètement, de toute façon, il y a un singe, enfin, il y a un Yeti sur scène, tout d'un coup, ça prend toute la place, j'existe plus, il se fout de ma gueule, tout ça, donc c'est vraiment agréable pour moi. Et les enfants, ils trouvent ça, enfin, j'hallucine les réactions qu'on a de la part des enfants. J'entends des enfants se bidonner dans le spectacle, comme j'ai jamais entendu, même dans le premier spectacle, donc ça, c'est chouette.
Le spectacle s'appelle Givray, voilà, il y a tout ce qu'il faut autour de la montagne. Y a-t-il une raclette à la fin ou une fondue? Ça, c'est à vous d'aller faire un petit tour au spectacle.
Ah, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est pas des, on donne pas des tickets, on donne des palettes de raclette aux gens dans l'entrée.
Voilà. Et, 29 mars à Lille, j'ai fait mon enquête. 13 juin à Dunkerque. Il y a plein de dates. Vous allez sur le site. Allez, on s'en va. Tu me rendras les 200 balles de la fois dernière. Merci.